Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir, Christine Goémé. Bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Si en effet, comme ne cesse de le démontrer John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique, nos relations avec l'ancien Empire romain sont imprégnées d'anachronismes et de préjugés, c'est parce que nos actuels monothéismes, avec leur double face, publique et ostentatoire d'un côté, intimiste et émotionnel de l'autre, ne peuvent en aucun cas nous permettre de comprendre comment fonctionnait la religion romaine, ritualiste avant tout, sacrificielle, polythéiste évidemment, et fortement institutionnalisée par la cité. Mais le cours que nous avons suivi hier, premier de cette série consacrée au culte des morts dans l'Empire romain, pourrait nous laisser croire à des proximités entre les pratiques funéraires des Romains qui vivaient aux alentours du 1er siècle avant notre ère, avec les nôtres, comme si, face à la mort, les rituels estompaient des différences pourtant abyssales. Interrogeant les sources littéraires, John Shedd restituait le rythme des cérémonies du deuil. On exposait les cadavres, propres et revêtus de leurs plus beaux habits, en vue de leur faire des adieux, alors que la famille et l'entourage non seulement se couvraient de vêtements ternes et sombres, mais inversaient certains codes identitaires, de genre ou de statut social. Dans la Rome antique, c'étaient les proches, fils ou frères par exemple, qui conduisaient le rituel funéraire et faisaient les discours, car les prêtres et les magistrats devaient se protéger de la vue et de la proximité des cadavres, lesquels auraient pu affecter leur commerce quotidien avec les dieux. Du coup, les processions qui conduisaient les morts à la nécropole évitaient soigneusement de passer devant les temples. Comme l'écrit en effet Cicéron, « La loi veut qu'on s'approche des dieux avec une âme pure. Or, pour les anciens Romains, la mort était une souillure dont il fallait se purifier. » La fin du deuil était marquée par un banquet. Mais auparavant, on offrait une truie en sacrifice à Cérès. C'est de cela que nous parle John Shedd maintenant. Écoutez.
Revenons donc au sacrifice funéraire. Dans le livre consacré au sacrifice des Romains, qu'en faire, c'est quoi, etc., j'ai tenté d'expliquer la nature de ce sacrifice et je n'y reviendrai pas longuement. Ce sacrifice comprend trois partenaires, Cérès, le défunt et la famille en deuil. Le fait que la déesse Cérès se trouve en présence du mort ne constitue pas une impossibilité théologique ou rituelle, comme pourrait le faire penser la fermeture des temples au passage d'un cortège funèbre ou lors des deuils publics. Dans d'autres cas aussi, des divinités d'en haut peuvent se trouver en contact avec le monde d'en bas, avec les dieux infernaux, dans le cadre des rites, de rites particuliers. Rien n'exclut la participation des trois partenaires que j'ai cités à ce sacrifice près de la tombe, Cérès, la famille endeuillée et le défunt. Nous l'avons déjà vu, le défunt ou la défunte ne sont pas encore véritablement des morts. Ils sont en route vers leur séjour chez les dieux mânes. La famille endeuillée a elle aussi un statut ambigu à ce moment-là. Elle est bien vivante, bien sûr, mais elle est impliquée dans l'espace funèbre à travers le décès d'un de ses membres et le contact étroit avec le corps du défunt. Cérès, quant à elle, peut être invoquée parce que la terre va être ouverte pour accueillir un corps et que cet espace de la surface de la terre lui appartient. Et tant que le corps qui va être incinéré n'est pas rituellement entré dans l'au-delà, elle peut aussi parfaitement être en rapport avec lui. Dans un contexte particulier, il serait passionnant d'avoir les rites très précis qui se célèbrent pour cette déesse, mais malheureusement, nous devons faire avec ce que nous avons. Le sacrifice à Cérès est suivi d'un partage dont témoignent les offrandes déposées sur le bûcher et le banquet de la famille. La déesse devait de toute évidence également recevoir une part, puisqu'il y avait apparemment partage. Si la famille partageait ses aliments avec le défunt, la déesse devait recevoir également sa part, d'autant plus que ces détails sont très importants. Le sacrifice s'adressait à elle. Cicéron parle d'un sacrifice à Cérès, donc elle doit recevoir quelque chose. Il est en effet impensable qu'une divinité à qui l'on sacrifie ne reçoive pas tout ou partie de l'offrande. Une belle anecdote racontée par Apulée fait apparaître qu'une distinction commence à se réaliser au moment de ce partage sacrificiel. C'est là que vraiment la séparation d'avec le défunt ou la défunte commence. Il s'agit d'une anecdote. Elle confirme d'abord la description des funérailles épiques de Misène que nous avons évoquée la fois précédente, car le médecin qui découvre la scène des funérailles devant la porte de la ville, ville en Afrique romaine, on ne peut pas être plus précis, mettons Carthage, puisque ces discours ont été sans doute prononcés à Carthage. Donc, le médecin célèbre qui découvre la scène des funérailles devant la porte de la ville aperçoit le défunt avec la chaira feralis, le repas funéraire déposé sur son bûcher. Ces détails prouvent une première chose, qu'au IIe siècle de notre ère, les rites sont, pour Apulée, les mêmes que pour Cicéron et Virgile, un siècle et demi à un siècle plus tôt. Le médecin s'aperçoit que le personnage disposé sur le bûcher n'est pas mort, parce qu'il était célèbre pour cela, qu'au premier regard, il voyait si quelqu'un était mort ou cru mort, mais ne l'étant pas. Le médecin s'aperçoit donc que son personnage, qui est déjà sur le bûcher, vit toujours, ordonne tout de suite en hâte à la famille assemblée de ne pas mettre le feu au bûcher, mais de transférer la chaira feralis, le repas funéraire, funèbre, de la tombe sur la table qui est dressée à côté et où, de toute évidence, la famille en deuil s'apprêtait à consommer le banquet sacrificiel. Il m'a semblé que cette situation prouvait que le repas que les parents en vie allaient consommer sur la table était une part des mêmes éléments qui allaient être incinérés avec le défunt et qui était, ce repas funèbre, posé sur le bûcher à côté de lui. On est encore chez des incinérants, des gens qui pratiquent la crémation. Et on comprend que manger sur la table, assis à la table, renvoie à la normalité, c'est-à-dire à la vie, alors que la crémation, au milieu des dépôts d'offrandes diverses, l'huile, les parfums, les fleurs, signifiait l'altérité, c'est autre chose. Le processus en cours était celui de la séparation progressive qui s'opérait entre les vivants et leurs morts ou leurs mortes. Malheureusement, Apulée ne dit rien du troisième partenaire dont parle Cicéron, Cérès. En tout cas, à en croire le résumé du dictionnaire de Festus par Paul Diacre, ce banquet, qui était appelé à l'époque républicaine Silicernium, un terme qui s'est perdu par la suite, avait pour mission de purifier du deuil la famille, ou pour le dire en termes modernes, il énonçait et réalisait la séparation en cours des vivants et des morts, par des rites. Nous ignorons si le défunt recevait, à part le pain, le lait et l'huile, des parts particulières de la truie, ou simplement un morceau de la truie, comme les vivants, ce qui, s'il s'agissait de parts particulières, cela accentuerait la distanciation avec la famille, encore un moyen de se distinguer. Toujours est-il que la vaisselle utilisée dans ce rite était spéciale et était détruite d'après certaines sources écrites, ce qui est très intéressant. En effet, dans un commentaire à un passage de l'Énéide, les funérailles de Misène, je crois, Servius remarque qu'aux divinités d'en haut, dit Superi, ils, les Romains, faisaient simplement des libations. Quand ils sacrifiaient à celles d'en bas, inferis vero sacrificantes, ils jetaient même les vases dans le feu. C'est pourquoi il dit les cratères, ce qui sont brûlés. Properce, lui aussi, dans un poème que nous reverrons encore, où son amante se plaint de ce qu'il l'a enterré comme une pauvrette, qu'il ne s'est absolument pas occupé de ses funérailles. Elle dit, enfin, pourquoi n'es-tu pas venu implorer les vents pour mon bûcher ? Donc il n'a même pas assisté. Pourquoi la flamme n'a-t-elle point exhalé ? Il ne s'est absolument pas occupé de ses funérailles. Elle dit, enfin, pourquoi sur le bûcher ? Il n'en aurait coûté, n'est-ce pas, de jeter sur la tombe quelques pauvres hyacinthes ? On jette des fleurs aussi.